Bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je crois qu'on va pouvoir commencer. Donc nous avons les excuses de Jacques Pellegrin qui n'est pas là ce soir mais qui petit à petit reprend son investissement municipal puisque demain on a une réunion avec Métropole sur l'ensemble des problèmes d'urbanisme et de voirie, il sera là. Il sera là au séminaire de samedi normalement si tout va bien. On a Claude Bougot également. Alors Michel donne son pouvoir à Michel Bisaccia, Claude Bougot donne son pouvoir à Michel Cosset. Isabelle Garbet, qui subit une petite intervention, bon, rien de grave, hein, de contrôle, donne son pouvoir à Mireille Papin. Hugo Rodriguez Souza nous a dit qu'il ne savait pas trop s'il serait là ou pas. Il passe ses épreuves terminales donc, dans deux jours. Donc, je pense qu'il est plutôt pris au lundi prochain. Donc, il révise en ce moment. Donc, il me donne son pouvoir. Raymond, je n'ai pas de nouvelles au niveau santé, mais bon, ça n'a pas l'air terrible, quoi. Hein. Ça se suit. Donne son pouvoir à Christine Gezins et Marie-Jeanne Scherrer, qui est en vacances, donne son pouvoir à Antoine Di Paolo. Voilà. Donc, merci de vous être rendu disponible pour ce conseil de rentrée. Et on va tout de suite commencer donc par le premier point, qui est l'état des décisions du maire. Donc, vous avez la liste. Pour des décisions dont vous avez le détail, j'attirerai simplement votre attention sur la décision du 26 juillet 2021, qui est le marché public avec l'entreprise La Pause Déjeuner, qui vise à la confection, à livraison sur site des repas et des goûters en liaison froide pour la crèche Castor et Pollux et le jardin d'enfants Pégase. Vous savez qu'on avait essayé de mettre en place un système avec un prestataire. On avait une cuisinière qui préparait sur place les repas, qui passait les commandes. Ça a posé beaucoup de petits problèmes et dans la gestion des stocks et dans la capacité à répondre aux besoins. Donc, on a mis en place un petit marché. Donc là, c'est un prestataire qui livrera en liaison froide, charge à nos collaboratrices de faire chauffer les repas pour les enfants. Des questions sur les décisions du maire ? Deuxième point, qui est peut-être le point, me semble-t-il, hein, c'est ce que je disais à notre correspondant de presse, le plus important de ce conseil, c'est le projet de convention opérationnelle avec EPORA et Saint-Étienne Métropole. La présente convention opérationnelle vise à poursuivre l'action foncière débutée dans le cadre de la convention d'études et de veille foncière pour l'aménagement du centre-bourg entre la commune, l'EPORA, donc établissement public foncier ouest Rhône-Alpes, et Saint-Étienne Métropole, voté lors de la séance du conseil municipal du 3 juin 2019. C'était le début donc de l'étude menée par EPORA. La commune a souhaité étudier et planifier le devenir de son centre-bourg en termes de programmation de logements. Pour ce faire, une étude de faisabilité a été menée entre 2020 et 2021. Vous avez été informé régulièrement de l'avancée de cette analyse. Sur la base de cette étude, les élus ont souhaité s'engager dans un projet de création de logements sur deux îlots urbains situés autour de la place Jean-Baptiste Père. Ce projet nécessite d'acquérir et de démolir plusieurs tènements dont la plupart sont occupés. Le projet est porté par la commune qui s'engage à acquérir les biens mobilisés et préparés par EPORA, Saint-Étienne Métropole et la collectivité partenaire pour cette opération, dans la mesure où pour les actions d'expropriation, c'est ça, Frédéric ? Droit de préemption. Il est transféré donc à la métropole dans le cadre de ses compétences métropolitaines, qui est elle-même donc le relais auprès de l'EPORA. Donc c'est pour ça que Métropole est co-signataire de cette convention. Les biens acquis seront aménagés pour permettre la réalisation d'un programme de 22 logements en collectif, donc un immeuble, sur l'îlot jouxtant la mairie, l'îlot 2, qui intègre la salle de l'atelier, et 12 logements en collectif sur l'îlot 3, soit un total de 34 logements. Je vous rappelle que ça, c'est donc les paramètres de l'étude EPORA. Donc après, dans la réalité des choses, on verra bien comment ça évoluera. Je veux dire, c'est que si au lieu de 22, il n'y en a que 21 ou 20, ou si au lieu d'en avoir 12, on en a 13 ou 14, on verra bien comment ça évoluera. L'assiette foncière à mobiliser pour l'opération d'aménagement totalise une superficie de 2331 m² et comprend des immeubles de logement et des commerces, en l'occurrence le bar-tabac. Pour l'îlot 2, les parcelles AH 161 à 170 seront achetées et démolies pour permettre la construction d'un immeuble de 22 logements en collectif. Pour l'îlot 3, les parcelles AH 149, 151, 308 et 448 seront achetées et démolies pour permettre la construction d'un immeuble de 12 logements en collectif. Le coût de revient de l'assiette foncière requalifiée décrite à l'article 5 est estimé à 2 180 509 euros hors taxes. Aussi, les parties s'accordent sur le fait que l'EPORA pourra poursuivre l'opération en engageant des dépenses sans nécessité d'en passer par la voie d'un avenant tant que celles-ci ne conduisent pas à ce que le coût de revient prévisionnel ne dépasse de plus de 15% le montant indiqué dans la convention. Donc, l'EPORA a fait une estimation globale du coût de immobilier en intégrant une éventuelle majoration maximale de 15%. On va retrouver d'ailleurs ce pourcentage d'ajustement dans les éléments qui suivent. Le taux de participation de l'EPORA au déficit sera de 25%. Donc, dans une opération comme ça, ils achètent le coût de la déconstruction. Et puis, il y a éventuellement, on en parlera après, des reventes. Et puis, il y a un solde, généralement, qui est négatif. Donc, sur ce déficit, l'EPORA participera à hauteur de 25% de ce déficit. Donc, le montant prévisionnel de minoration, donc la participation d'EPORA, serait de 374 000 hors taxes, soit une minoration plafonnée à 431 000 hors taxes par application des 15% de dérive du prix de revient autorisé. Donc on aura à minima, par rapport aux estimations, 374 000 euros de participation, mais ça pourrait aller jusqu'à 431 000 euros. Le prix de vente contractuel prévisionnel de l'assiette foncière mobilisée et adaptée au projet d'aménagement qui résulte du prix de revient tel que défini dans les conditions générales et des minorations foncières attribuées au projet financier est de 1 544 550 euros hors taxes, avec des paramètres suivants. Taux de participation de l'EPORA au déficit de l'opération 25%, prix de revient global de l'opération 2 180 509 euros hors taxes, valeur vénale des terrains requalifiés 685 572 euros hors taxes, donc c'est l'estimation théorique de revente des terrains. Donc on a bien compris que là on a une estimation foncière par rapport au marché actuel, mais quand on se projette dans l'avenir, au moment où il sera opportun de céder ces terrains, peut-être qu'au niveau immobilier on aura un prix d'acquisition supérieur. Déficit 1 494 937 euros, donc participation d'EPORA 374 000 euros plafonné à 431 000 euros. Donc deux options. Une fois qu'EPORA a acheté et détruit les deux ensembles fonciers, îlot 2 et 3, il y a deux options. Soit on prend l'État et on verse à EPORA 1 544 550 euros. Pardon. Et après, on fait ce qu'on veut, entre guillemets. Soit on passe par un opérateur, tel que c'est estimé dans l'étude EPORA, donc qui va acheter à minima les deux terrains, je dirais, pour 685 572 euros. Et il nous resterait à charge, une fois l'opération finalisée, 858 978 euros. Autre information, je vous rappelle que, compte tenu de ce projet prévisionnel, on a décidé de provisionner chaque année une provision pour charge. C'était de 100 000 euros en 2020. Si notre capacité financière nous le permet, je vous proposais fin 2021, de passer à 120 000 euros, ce qui fait qu'au bout du compte, fin 2025, sur cette tendance-là, on aurait provisionné environ 700 000 euros. Ce qui nous permettrait d'être tout à fait, je dirais, en phase avec le reste à charge tel qu'il est évalué par EPORA. Il resterait donc un peu plus de 100 000 euros, donc soit supporté sur l'exercice 2026, soit peut-être un coût moindre compte tenu des opérations immobilières qui pourraient être réalisées réellement sur ce projet. Donc je vous demande d'approuver le projet de convention opérationnelle avec l'EPORA et Saint-Étienne Métropole, de m'autoriser à signer ce projet de convention et ses annexes, et donc de dire que la dépense sera prélevée au budget. Avez-vous des questions par rapport à cette convention opérationnelle ? C'est l'aboutissement des 2 ans de travail qu'on a connus sur tous les éléments qu'on a pu communiquer avec l'EPORA. Et puis maintenant, ben, vous le savez, on a continué à travailler avec le cabinet d'architectes Zeppelin qui était associé à ce travail de prévision et d'estimation. Le cabinet Zeppelin, lui, travaillant actuellement à une réflexion sur la Villa Saint-Michel. Donc là, vous avez compris qu'au bout du compte, ce qu'il faut retenir, c'est ce que ça nous laissera à payer, 1,5 million ou 800, alors, soit 1 million... 1,544,000, soit 858,000 euros. Mais de toute façon, la rétrocession, c'est 1,544,000. Alors, soit après, c'est nous qui payons l'intégralité à EPORA et on choisit notre constructeur et on négocie avec lui le prix de cession des terrains, soit il intervient au moment où EPORA finalise les opérations comme un partenaire qui achètera à EPORA, qui fera le versement à EPORA de l'acquisition des terrains et nous, on payera le solde. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, en fait. Non, c'est une convention pour 5 ans, c'est ça? Donc après, l'échéance qu'on va avoir, c'est le délai ou la rapidité avec laquelle ils vont être en capacité de négocier avec les propriétaires actuels. Ça peut aller relativement vite, ça peut être plus long. Il peut y avoir peut-être même des phases de contestation contentieuse. Donc après, nous on se calera en fonction des difficultés que EPORA rencontrera. C'est vrai que si ça peut aller assez vite, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse au moins terminer le mandat avec des plateaux nus et des rétrocessions engagées. Après, ce qu'on verra dans le cadre de notre mandat, fleurir ces immeubles, je ne sais pas. Mais bon, après, ça dépend donc des propriétaires essentiellement et puis bien sûr du niveau de l'acquisition. Bon, là, sachant qu'EPORA est déjà propriétaire d'un des îlots puisqu'ils ont acheté en 2020, dans le cadre de la succession d'un des îlots, donc ils sont portés acquéreurs, ils ont négocié, je crois que la vente était à 109 000 et ils l'ont eu à 105 000, quelque chose comme ça, il me semble, c'est dans l'ordre de grandeur. Et puis dans ce lot aussi, il y a aussi un lot qui est la propriété de la commune, qui est l'ancien poste de police. Donc là, ils ne vont pas nous l'acheter. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le détail, il est assez complexe des opérations, mais ça rentre en plus dans la globalité de l'acquisition, c'est pour ça qu'on dépassait 2 millions, mais après ça vient en minoration. C'est comme s'ils nous l'achetaient et qu'ensuite on leur remboursait. Quoi. Donc, voilà. Des questions? De toute façon, c'est un dossier qu'on suivra, bien sûr. Après nous, maintenant, une fois qu'EPORA a acheté, ben, ils reviendront vers nous en disant voilà le détail des acquisitions. On verra si on est dans les fourchettes de prix, bien évidemment, qu'ils ont indiquées. Puis après, ce sont les travaux de démolition. Hein. Ou là aussi, on sait que parfois on peut avoir des surprises. Donc, dernière chose, dans ces chiffres-là, on n'a pas intégré tout ce qui est voirie et équipement. Parce que là, on arrive à des chiffres beaucoup plus importants. Il l'avait chiffré, EPORA, mais on sait que dans un projet comme ça, ça se fait de façon progressive. Et bien évidemment, on n'est pas obligé de raser tout le centre-bourg pour refaire l'intégralité des voiries, espaces verts. Non, mais eux l'avaient chiffré comme ça, en disant voilà, c'est pour ça qu'on arrivait à des chiffres beaucoup plus importants. Et c'était quand même intéressant de voir que sur un projet comme ça, sur un coût global, il y a les 2/3 qui vont justement à tout ce qui est VRD, voirie, réseau, etc. par rapport à la construction. Des questions complémentaires par rapport à la validation de cette convention, sachant que si on la valide ce soir, ensuite elle sera présentée au conseil d'administration d'EPORA également pour validation, puisque eux s'engagent avec nous. Hein. Il y a un coût financier pour eux qui sera de 25% du reste à charge. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui souhaite s'abstenir? Qui est pour? Donc, à l'unanimité, le conseil municipal valide la convention opérationnelle avec... Oui, bon, on l'approuvera après. Michel me faisait remarquer qu'on avait oublié d'approuver le procès-verbal de la séance précédente, qui était très particulière, me semble-t-il. Et ce n'était pas simplement parce que c'était juste avant les vacances. Il me semble qu'il y avait un match de l'équipe de France juste après. De mémoire. Eh non, très bien. Donc on va revenir en arrière, effectivement, j'aurais dû tilter. Donc par rapport au procès verbal de la séance précédente fin juin, est-ce que vous aviez des observations, des remarques ou des précisions à apporter? Comment? Non, mais il n'est pas verbalisé, hein, il n'est pas verbalisé. Donc voilà, il se trouve qu'il y a une juxtaposition dans le temps, mais c'est tout en fait. Hein? Bon. Donc, qui est contre le procès-verbal? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, à l'unanimité, on approuve le procès-verbal du 29 juin de mémoire. D'accord. Donc, abstention de Pierre Achard. Pour Novim, je vais passer la parole à Claude Bruneau.
Merci. Bonsoir. Monsieur le maire nous expose que le Code général des collectivités territoriales précise dans son article L1524-5 que les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration. Donc, on avait déjà voté l'année dernière, hein, ce même document. L'équivalent, on dira, de l'année précédente, hein, pas exactement le même. C'est quelque chose qu'on revotera l'année prochaine. Oui, justement, et les années suivantes. Non, mais c'est prévu, hein. Donc, afin de satisfaire à cette obligation, il faudra se prononcer sur le rapport de gestion. Alors, je vous rappelle que les documents de ce rapport de gestion étaient consultables au secrétariat général. Vous l'avez signalé. Effectivement, il y a eu la ruée générale pour aller les consulter, comme d'habitude, hein, ces documents, il n'y a pas de souci là-dessus. Et Novim, je vous rappelle que c'est anciennement la SEDL qui avait fusionné avec la SEM Patrimoniale 42. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. C'est une société d'économie mixte, c'est-à-dire une société qui a à la fois des capitaux de collectivités locales et des capitaux privés. Mais le capital est majoritairement détenu par les collectivités locales. C'est un opérateur de l'aménagement et de la construction qui est au service du développement et de l'attractivité des territoires. Alors, le territoire d'intervention, c'est la région Rhône-Alpes, mais c'est surtout des interventions ligériennes dont il est question. Alors, les domaines d'intervention, c'est surtout le renouvellement urbain, le développement économique et. Depuis quelque temps, il y a l'activité de portage immobilier et le tourisme qui se sont également qui se développent de plus en plus, qui sont développés par la société Novim. Voilà, donc je pourrais vous en dire un peu plus. Je ne vais pas vous refaire chaque année le détail de tous les actionnaires, parce que c'est une liste assez longue. S'il y en a qui veulent en savoir un peu plus, vous viendrez me voir et puis je vous dirai tout ça. Mais on ne va peut-être pas passer notre temps à lister chaque année les mêmes choses. Voilà. Donc, son statut, quand même, ce qui est intéressant, c'est que son statut de société d'économie mixte fait qu'elle est au service d'un intérêt général, mais dans le respect de la commande publique. Et le caractère industriel et commercial dû à l'actionnariat privé lui confère donc la capacité de s'associer à des partenaires pour certains projets spécifiques. Chose qui serait difficile sur si on était exclusivement en service public. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ouais, c'est parfait. Je vais repasser la parole à Monsieur le
Donc,
maire.
Novim fait partie un petit peu de ces différentes structures publiques ou mixtes qui gravitent autour de la métropole. Donc, il nous est demandé d'approuver le rapport de gestion. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail, mais c'est presque une formalité annuelle, puisque les débats ont lieu ailleurs, et en l'occurrence, en Assemblée générale. Donc, qui est contre ce rapport? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, il est accepté à l'unanimité. Le point suivant concerne donc une convention cadre immobilier avec la société Agorastor. Dans le cadre de son plan de mandat et en corrélation avec son plan pluriannuel d'investissement dont nous débattrons samedi prochain, la municipalité s'interroge également sur la question de la politique immobilière municipale, d'autant que celle-ci doit aujourd'hui être gouvernée par des exigences d'optimisation et de rationalisation des charges et des coûts que la commune doit supporter. Aussi, c'est dans ce contexte qu'un inventaire immobilier a été réalisé. C'est en particulier Jacques et Michel qui avaient travaillé avec Jean-Pierre Roll sur cette thématique. D'ores et déjà, des biens ont pu être cédés à des personnes privées, donc Madet, à qui on rétrocède le premier étage au-dessus de la salle de la Bargette, et Kélios, à qui on a décidé de céder le terrain du Péchier en face, la canopée ou le canopée, comme vous voulez. Pour autant, afin de poursuivre cette démarche de manière plus efficiente, la commune pourrait collaborer avec la société Agorastore. En effet, la solution Agorastore présente des avantages dont la commune pourrait bénéficier afin de faciliter la vente de ses biens tout en sécurisant juridiquement ses procédures. À savoir, un outil de courtage aux enchères, son objectif est de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs via son site internet qui reprend la totalité des produits en vente, dont ceux du vendeur. Donc c'est une structure qui est nationale. Le prix de vente des biens dépendrait des enchères, fixé pour une durée de 3 mois, à charge pour la société Agorastore de mettre en œuvre les différentes mesures indispensables aux futures cessions. À la fin des enchères, le choix final de l'acquéreur dépendrait de la commune, sans obligation pour elle de choisir le mieux-disant. Donc c'est cette société qui met sur son site l'évaluation, puisque vous savez qu'on ne peut pas vendre en deçà de l'évaluation des domaines, et qui donc suit un petit peu les propositions d'enchères. Quand les enchères sont closes, on n'est pas tenu de prendre le mieux-disant par rapport à un ou deux projets, un petit peu comme l'approche qu'on avait eue pour le terrain du Péchier. On peut tout à fait choisir celui qui semblerait le plus adapté en tant que projet par rapport à nos attentes. Les conditions ci-dessus évoquées sont formalisées par une convention cadre immobilier portant mandat et jointe à la présente, conclue pour 1 an, renouvelable pour une durée maximale de 4 ans. Donc si on le fait, on s'engage pour 1 an. Au titre de cette convention, le ou les biens mis en vente par la commune font l'objet d'un mandat exclusif au profit de la société Agorastore d'une durée de 3 mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de 3 mois, sans que la durée totale de ce mandat ne puisse excéder 1 année. Un petit peu comme avec un agent immobilier qui a un contrat à mandat exclusif. C'est la même logique. La rémunération de la société Agorastore est établie par une commission fixée au regard de la mise à prix du bien versée par l'acheteur sur le prix de vente final selon les taux précisés dans la convention et rappelés ci-après. Donc jusqu'à 150 000 euros, c'est 8,5% du prix de vente. Entre 150 000 et 300 000, c'est 7,5%. Entre 300 000 et 600 000, c'est 6,5%. Et entre 600 000 et 4 millions, c'est 5,5%. Il est proposé au conseil municipal donc d'approuver la conclusion de la convention cadre immobilier portant mandat de vente au profit de la société Agorastore et d'autoriser le maire à signer la dite convention et tous les actes nécessaires à l'exécution des présentes. Alors pourquoi on s'est engagé dans cette démarche? On s'est dit, en particulier avec Frédéric Billon qui a eu des contacts avec la société, puis on les a eus en ligne, hein, en visio, pourquoi pas? Il nous reste un certain nombre de biens, et vous les connaissez, et je pense en particulier pour commencer au terrain qui se situe au Charpenais à côté du City Stade. À chaque fois, bon, on a l'estimation des domaines qui est en deçà de la réalité, mais ça nous permet de mettre un prix plancher. Et puis, bah, on contacte des opérateurs. On a déjà eu donc des opérateurs, des bailleurs sociaux, puisque c'est un secteur où on a pas mal de logements sociaux. Puis on négocie. Donc là, on s'est dit, ça ne serait pas un engagement très, très lourd de passer par ce système, parce qu'on s'aperçoit quand on va sur leur site et quand on voit ce qu'ils arrivent à vendre, qu'en fait, ça, on peut aller peut-être beaucoup plus loin que ce que nous, on pourrait estimer comme prix raisonnable. Donc, c'est un essai, en fait, qu'on fait, sachant qu'après, bon, les quelques biens qui nous resteraient seront dans, je dirais, d'un autre enjeu financier. Voilà. Corinne.
Je me disais... Ici, j'ai compris, donc ils ont l'exclusivité à partir du moment où on s'engage avec eux, par période de 3 mois, c'est ce que j'ai lu. Ma question est la suivante. Si pendant cette période, on trouve quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un se présente à nous, et voilà, Est-ce qu'on le conduit sur le site à Agora ou comment on peut s'en sortir de cette affaire?
Alors, c'est un petit peu l'idée. Si on a quelqu'un qui est intéressé, c'est de l'orienter vers la plateforme. Et à l'inverse, si une fois que les enchères sont finies et qu'elles n'ont pas abouti, on passe une vente avec un tiers qui avait soumissionné, qui avait été, je dirais ensuite, dépassé par une autre enchère, il le réintègre en considérant que c'est grâce à eux que la vente a pu se faire. Donc, si on a quelqu'un qui se manifeste, soit on lui dit, bah, écoutez, allez sur la plateforme, et faites monter les enchères si vous voulez, ou alors bah, n'y allez pas et puis bah, revenez vers nous dans 3 mois. Alors, vous savez bien que sur ces dossiers, ce n'est pas comme un particulier, on n'est pas pris à la gorge, on n'est pas à 3 mois près, c'est pas, il nous faut tout de suite vendre parce qu'on va partir ou parce qu'on a un pré-relais, ce n'est pas ça du tout. Donc là, c'est vraiment un ballon d'essai, parce qu'après, on aura peut-être, je dis bien peut-être, des dossiers plus lourds. Et c'est vrai que dans ce qu'on a pu voir dans leur réalisation, par rapport à ce que nous, on peut estimer, et on a des estimations hein, sur ce terrain et sur les autres, qui nous ont déjà été faits en particulier par la société Thomas, on aura peut-être des agréables surprises. Ou pas, d'ailleurs. Bon, on l'avait vu hein, dans les estimations des Pora sur un îlot qui n'est pas dans la convention, qu'on garde sous le coude, où l'estimation des Pora était déjà très sensiblement supérieure à celle qui avait été faite par un constructeur. Donc voilà, après ça dépend aussi de l'évolution du marché foncier. Et puis surtout, c'était de dire, on peut peut-être attirer sur la commune ou la périphérie stéphanoise des opérateurs qui ne sont pas de la Loire ou qui ne sont pas de Rhône-Alpes. À voir.
Puis si tu pouvais aussi m'apporter une précision sur la valeur des domaines. Donc tu dis, on ne peut pas vendre en deçà de cette valeur. C'est
en dessous.
Ouais, en dessous.
Oui.
On peut jamais.
Jamais.
D'accord.
Les domaines, généralement, les estimations, elles sont bien en dessous du prix du marché, parce que comment ils procèdent? Soit ils connaissent bien le foncier, sinon ils font des règles de 3 entre ce qui s'est vendu, un petit peu comme effet Pora d'ailleurs. Dans l'estimation du prix de revente des immeubles, hein, ils regardent le foncier sur la commune, sur les communes avoisinantes, sur les mêmes typologies de communes, en ciblant des immeubles destinés à des foyers plutôt, à petits revenus, à revenus moyens, à gros revenus. Donc voilà, ils croisent un peu tous ces paramètres. Donc Epora, généralement, toutes les évaluations qu'on a eues jusqu'à maintenant étaient bien en deçà des prix de vente. Mais la règle, c'est qu'on ne peut pas vendre en deçà. Alors je crois qu'il y a une dérogation, s'il y a une raison très particulière. Voilà, il y a une marge, mais on pourrait, si par exemple on avait un terrain qui soit dans un état catastrophique, qu'il faille absolument s'en débarrasser. Mais en général, on est bien au-dessus.
Merci.
D'autres questions? Bon, alors on s'engage, hein, c'est une convention d'un an, avec une enchère qui est bloquée sur 3 mois par mandat exclusif. Et donc l'idée, ça serait, si vous en êtes d'accord, on en parlera lors du prochain conseil, du terrain du Charpennais à côté du City Stade et puis de passer par cet opérateur. D'autres questions par rapport à ça? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc à l'unanimité, on signera une convention avec Agorastore. Alors, le dossier suivant, c'est celui relatif à la plateforme autorisation du droit des sols. C'est compliqué le droit des sols, en fait, c'est toutes les procédures juridiques qui gravitent autour du droit d'urbanisme, donc dans les problématiques de construction, de réhabilitation, de voirie, etc. Ça s'appelle donc l'autorisation du droit des sols. Le bureau de Saint-Étienne Métropole du 8 juillet 2021 a validé la signature d'une convention pour l'instruction des demandes d'autorisation et actes relatifs à l'occupation et l'utilisation du sol. Vous trouverez en annexe un exemplaire de la délibération de la convention et de la convention d'adhésion à celle-ci. Cette convention définit les modalités de l'offre de service, précise son champ d'application, la répartition des tâches entre la commune et Saint-Étienne Métropole, ainsi que les modalités juridiques et financières de mise en œuvre. Et donc, il convient donc d'approuver cette convention et de m'autoriser à la signer. Alors, je ne vais pas revenir sur la convention. La dernière remonte, je crois, à 2015, il me semble, Frédéric, ça doit être ça. Donc, ça consiste pour un certain nombre de dossiers d'urbanisme, au sens large du terme, à les vérifier, voir si on a toutes les pièces, on a toutes les autorisations. Et ensuite, c'est transmis au service instructeur de métropole pour avis. Je schématise. Il y a un problème auquel on a été confronté, c'est les questions de dossiers avec accessibilité, en particulier donc pour les ERP. Donc là, une partie de la réponse est dans la convention, puisque pour les permis de construire, c'est Saint-Étienne Métropole qui instruira également le dossier au regard des règles d'accessibilité pour un ERP. Je dis bien en cas de permis de construire. Il reste le problème des établissements devenant des ERP, où là, il n'y a pas une construction, mais une réhabilitation, une modification, où là, ça reste de notre compétence et on a quelques soucis d'avoir les compétences requises pour instruire ces dossiers. Sachant que cette convention s'achèvera en 2022, donc elle est très courte, parce que là, je crois qu'à partir de 2022, il va y avoir également une remise à plat de l'ensemble du dispositif avec une reconcentration de l'instruction des dossiers auprès de la métropole. Vous avez vu également qu'il y a un tarif. Ce n'est pas gratuit pour les communes. Vous avez une tarification qui est indiquée. C'est en dernière page, en annexe, je crois, de la convention. Il me semble. Vous me reprenez, Frédéric, si je dis une bêtise. Donc, un permis. Alors, il y a des coefficients. Donc, le premier coefficient, bien sûr, c'est un permis de construire avec un coefficient de 1. Donc, le coût du permis de construire, coefficient 1, c'est 212 euros TTC. Pour un permis d'aménager, c'est 254 euros. Déclaration préalable, 148 euros. Permis de démolir, 170 euros. Et certificat d'urbanisme, 85 euros. À la charge de la commune. Voilà, donc je vous demande de m'autoriser à signer cette convention qui sera de courte durée. Je pense que courant 2022, on vous présentera une nouvelle convention parce qu'il y avait, je crois, deux catégories de communes qui étaient liées à Métropole. Et le seuil, c'était 5000 habitants. Je crois qu'il y avait ceux qui avaient déjà une convention dont on devait faire partie, avec plus de 5000 habitants, et puis d'autres qui n'étaient pas encore dans ce cadre-là. Des questions par rapport à ça? Ce qui ne retire pas la nature du travail qu'on a, nous, ici, en local. Bon, en l'absence de Jacques, quand Michel n'est pas dispo, moi, je signe les dossiers. Et ce qui est surprenant dans ces dossiers, c'est la démultiplication des exemplaires. Pour le même dossier, on va avoir passé une première série d'exemplaires, un premier dossier démultiplié en plusieurs exemplaires, et puis après, quelques jours après, un nouveau dossier avec d'autres pièces qui ont complété. Enfin, c'est très très lourd à suivre. On pourra remercier d'ailleurs les personnes à l'urbanisme qui gèrent ces dossiers. Des questions? Donc là, on est dans un acte administratif tout à fait, je dirais, normalisé par rapport à la métropole. Qui est contre? Qui s'abstient, donc qui est pour, à l'unanimité, on va valider cette convention de partenariat avec Saint-Étienne Métropole. Le point suivant, on nous demande également donc de valider, c'est l'installation classée pour la protection de l'environnement au CHU de Saint-Étienne. Dans le cadre de la procédure relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne a déposé une demande d'enregistrement d'une installation en vue d'obtenir l'autorisation d'augmenter la capacité de puissance des appareils de secours du site sur le territoire de la commune de Saint-Priest-en-Jarret, avenue Albert-Raymond. À ce jour, l'établissement, donc le CHU, dispose de 4 groupes électrogènes qui sont dédiés à la source de remplacement d'établissement et d'un groupe électrogène dédié à l'alimentation des installations de sécurité. En complément, le centre hospitalier exploite une chaufferie gaz pour la production d'eau chaude et pour le chauffage du site. Le projet initié par l'hôpital Nord, CHU Nord, sera le suivant, c'est celui qui nous est donc proposé. Les deux groupes électrogènes de 5177 kW seront conservés sur le remplacement actuel. Les deux groupes électrogènes de 3911 kW seront retirés. Il sera installé 3 nouveaux groupes électrogènes de 5000 112 kW. Ces groupes seront installés dans les locaux déjà destinés à cet usage. Le groupe de secours principal de 2660 kW sera déplacé dans un bâtiment à construire. Il n'y a pas de modification des installations de combustion de la chaufferie. Il est toutefois prévu des modifications techniques visant à interdire l'usage simultané de plus de 4 chaudières sur les 5 en place. Les nouveaux groupes électrogènes seront installés dans l'emprise de la centrale secours existante. Le groupe de secours principal sera installé dans un nouveau local à proximité de la centrale secours existante. La puissance thermique totale atteindra à terme sur site 45,92 MW. Donc voilà, hein, c'est une évolution technique au niveau du CHU. Je pense que des décisions comme ça, on aura peut-être pas mal à prendre dans les années qui viennent, puisqu'il y a quand même pas mal de... Oui, mais des projets d'extension et de réhabilitation au niveau du CHU, et ça nous sera soumis. Donc ce dossier fera l'objet d'une consultation du public dans les conditions prévues par les articles R512-4612 à R512-4614 du Code de l'environnement du 13 septembre 2021 au 13 octobre 2021 et il sera consultable au secrétariat général. Je vous demande donc de vous prononcer quant à cette demande, qui est en fait une mise à jour par rapport à l'évolution de leurs besoins d'un côté et, je dirais, de sécurisation optimale pour l'ensemble de l'installation. Vous avez des questions par rapport à ces données qui sont quand même très, très techniques? On voit bien qu'en fait, ils augmentent la capacité de l'ensemble de leur groupe. Oui. Il y a déjà eu des installations importantes là, courant du semestre, hein, sur une réfection de toutes les arrivées électriques. Sur le CHU, donc il y a quand même beaucoup de projets de travaux dans ce sens. Pas de questions? Donc qui s'abstient sur cette demande? Qui est contre? Qui est pour? Donc à l'unanimité, on va valider leur demande. Je vous remercie. Alors, on va faire un petit peu d'argent pour notre budget. Et je vais vous soumettre la cession et acquisition sur l'ex-site Jean Cabi. Donc le Jean Cabi, hein, c'est Imperator, c'est à la Bargette. C'est ce qui est en train de se restructurer actuellement. Anciennement, donc, les charcuteries du groupe Casino. Par délibération du 2 septembre 2013, le conseil municipal a approuvé, donc 2013, hein, l'acquisition auprès de la SARL Pôle Entreprise de la parcelle AE119 de 236 m² situé le long du bâtiment du centre technique municipal. Donc à l'époque, la commune s'était portée acquéreur parce qu'elle envisageait une extension du centre technique municipal, en particulier sur cette bande-là. Sur une partie de ce terrain appartenant donc à la commune, la SCI Pôle Entreprise a créé des places de stationnement pour les entreprises installées sur le site. Afin de régulariser cette situation, les opérations foncières suivantes sont prévues. Division de la parcelle AE119 que nous avions donc achetée de 236 m² en AE190 pour 46 m² et AE189 pour 190 m². Vente par la commune de la parcelle AE189, donc de 190 m², à la SCI pour l'entreprise et la parcelle AE190 restant quant à elle propriété de la ville. C'est-à-dire qu'on revend un bout de la parcelle que la SCI pour l'entreprise nous avait cédé en 2013. Achat par la commune à titre gratuit de la parcelle AE191 de 32 m² à la SCI pour l'entreprise. Cette parcelle est issue de la division de la parcelle AE120. Donc il leur restait un petit bout de parcelle, donc ils nous la rétrocèdent à titre gratuit. Conformément à l'avis du pôle d'évaluation domaniale, donc par rapport au domaine, la valeur vénale de la parcelle AE189 est estimée à 9 500 €. Donc vous avez compris, on avait acheté une bande de terrain. Sur cette bande de terrain qu'on n'utilisait pas, il a fait des parkings. Et maintenant, il nous dit, bah, en fait, je voudrais vous racheter la partie de cette bande de terrain sur laquelle j'ai fait des parkings. On en garde une partie, nous, pour éventuellement, à terme, faire évoluer le centre technique municipal. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la cession de la parcelle AE 189 à la SI Pôle Entreprise pour un montant de 9 500 €, d'approuver l'acquisition à titre gratuit auprès de la SI Pôle Entreprise de la parcelle AE 191 et de m'autoriser à signer tout document nécessaire à ces opérations. Les frais d'acte seront à la charge de l'acheteur. En l'occurrence, donc, la SCI Pôle Entreprise. Vous avez des questions sur cette opération, je qualifierais un petit peu de balancier, mais bon, c'est comme ça. Pour nous, elle ne nous sert à rien. Et puis, M. Masson, en l'occurrence, souhaitait la récupérer. Donc, on dit que c'est avec les petites rivières qu'on fait des grands fleuves. Ben, on vend un petit peu là, à gauche, à droite. Et puis, on verra bien au bout du compte comment évolueront dans le temps et dans la durée notre capacité d'autofinancement. Qui est contre cette cession ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, on valide cette décision à l'unanimité. Charge au notaire, Frédéric, à faire leur travail avec un petit peu plus de rapidité qu'ils n'en ont l'habitude, comme on peut le constater actuellement. Le point 8, qui est aussi un point sur lequel on a énormément débattu lors du précédent mandat, qui était vraiment un dossier très, très clivant entre la métropole et les communes, puisqu'il y a eu une fronde des communes. En particulier, c'était le sous-préfet de Montbrison qui instruisait ce dossier au nom de la préfecture, et ça a été parfois assez, assez violent. Donc, il s'agit du renouvellement du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. À la suite du travail de concertation mené pour la révision du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, les services de l'État ont établi un nouveau document joint à la présente. Pour rappel, la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage prévoit que les communes de plus de 5 000 habitants, nous sommes concernés, participent à l'accueil des gens du voyage. Lors de l'élaboration du précédent schéma départemental 2013-2018, notre commune était ainsi concernée par la création d'une aire d'accueil de 15 places avec Villard, correspondant à un investissement à réaliser de l'ordre de 600 000 euros. Donc je vous disais qu'il y avait quand même des enjeux financiers très, très importants qui expliquent que les communes étaient vent debout le projet. Compte tenu du bilan des aires d'accueil réalisées sur le bassin d'habitat de Saint-Étienne Métropole, de leur taux d'occupation, l'État avait décidé, pour les communes n'ayant pas encore créé leur aire de stationnement, de transformer cette obligation en une contribution au montage de projets de sédentarisation. Donc au lieu de créer une aire, on devait payer. Dans le cadre du nouveau schéma 2021-2026, les obligations d'accueil prévues par le précédent schéma pour notre commune, Villard, le Chambon-Feugerolles, la Ricamarie, Unieux, Saint-Galmier et la Grand-Croix, transformé en une contribution à la réalisation de projets de sédentarisation sur la métropole, sont maintenus. La compétence aire d'accueil relevant désormais de la métropole, la contribution financière correspondante est à la charge de Saint-Étienne Métropole. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le nouveau schéma départemental 2021-26 d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Alors, donc il y a un certain nombre de communes qui sont concernées. Il y a celles qui ont déjà des aires d'accueil. Certaines ne fonctionnent plus. D'autres doivent être réhabilitées. Et on voit bien qu'en plus, c'est très, très difficile à gérer en termes d'occupation et en termes de coûts de fonctionnement. Et on voit bien qu'il y a un pan nouveau qui apparaît, qui est celui de la sédentarisation de ces gens-là. En ce qui nous concerne, c'est un petit peu, je dirais, l'ambiguïté, mais j'en ai discuté avec le maire de Villard, justement, à la conférence des maires, et on est dans la même interprétation. On considère que c'est clair. On nous dit que nos obligations sont maintenues, donc nos obligations de participer au financement. Mais comme la compétence est désormais métropolitaine, la contribution financière sera à la charge de métropole. Ça nous convient comme verbalisation. La réalité financière qui en découlera, on verra. On verra. Parce qu'entre-temps, donc, ils ont pris la compétence, donc c'est à eux de gérer. L'engagement des communes n'a pas été pris puisqu'elles ont réellement frondé contre le projet qui était présenté. Bon, 600 000 euros avec Villard, ce n'était pas du tout envisageable. Puis c'était le même ordre d'investissement financier pour les autres communes. Donc voilà, maintenant on clarifie cette situation. Donc, on doit contribuer, mais c'est Métropole qui va payer. On ne peut pas être contre, hein, je crois. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je l'ai lu, hein. Bon, ce document, c'était quand même intéressant sur voir l'historique de cette situation. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder sur la situation actuelle des différentes aires, entre celles qui sont fermées, celles où il y a gros travaux de réhabilitation, celles où il y a une forme de sédentarisation. Et puis, il y a aussi un vécu, je dirais presque sociopolitique de ces aires d'accueil, puisqu'on sait très bien que quand une famille de gens du voyage arrive sur une aire d'accueil, elle se l'approprie. C'est-à-dire qu'elle interdit aux autres familles ou aux autres clans de s'y installer. Donc, ce qui explique que bien souvent, ces aires sont sous-utilisées en termes de capacité. C'est pour ça aussi que Métropole dit que ce n'est pas la peine de faire une aire d'accueil de 50 places si on sait qu'en général, il y en a 15 à 20, un grand maximum, qui sont occupés. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport au document qui est en lui-même intéressant? Donc là, on a derrière, donc dans le document, les projets déjà existants, les projets réalisés, etc. Vous pourrez vous y reporter, c'est quand même assez intéressant. Moi, quand j'ai vu arriver le dossier, je dis oula, on ne l'a pas prévu au budget. Avec Jordan Da Silva, on a dit on est d'accord sur la forme, on est d'accord sur la forme. Et je pense que les autres communes seront également d'accord sur la forme.
Christian, ouais. Moi, j'ai pas. Oui. Je ne comprends pas du coup la phrase transformée en une contribution à la réalisation de projets de sédentarisation sur la métropole sont maintenus. Du coup, c'est quoi? C'est quelle forme cette contribution? C'est une contribution financière, c'est ça?
On avait l'obligation de construire. Donc, par exemple, nous, on était en binôme avec Villa. On veut construire une aire d'accueil. Si on ne la construit pas, on doit payer pour. Et donc, c'était environ 600 000 euros. 300 000 euros par commune. Non, mais voilà. Donc, c'était ça. Pour ça que toutes les communes avaient dit non. Même les communes qui avaient des aires des gens du voyage, je pense en particulier à Saint-Jean-Bonnefonds, il y en a une qui ne fonctionne pas, etc. Mais non, c'est pas réaliste. Donc, on nous dit, vous ne faites pas, donc vous allez devoir payer pour qu'on puisse faire ailleurs. Mais le problème, c'était où aller construire ailleurs des aires d'accueil, sachant que là où ça se fait, ça ne marche pas bien. Donc là, ils nous disent, le principe est maintenu. Donc, puisque vous ne faites pas d'air, vous allez devoir payer. Mais, comme la compétence de gestion remonte à la métropole, c'est la métropole qui va payer en notre nom. Donc, c'est là, je me dis, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas encore. C'est le lien entre la commune et la métropole. Voilà.
Et les prix, là, nous, on discutait avec mon voisin. Ça nous, 600 000 euros, par exemple, ça nous semble.
Non, mais à mon avis,
peut-être pas, mais
c'est pas ça. C'est qu'en fait, après, pourquoi 600 000 euros? Parce qu'ils ont fait faire des études. Combien ça coûte en termes de construction et en termes de fonctionnement?
Ah oui, mais c'est mélangé.
Oui, mais après,
investissement, fonctionnement.
Si c'est pour 15 ans et que ça coûte, je sais pas, moi, je dirais 15 ou 20 000 euros par an, ça s'additionne.
D'accord.
Parce que si on l'avait créé, après, il aurait fallu la créer d'un point de vue foncier et après la gérer. Donc là, dit, si vous ne le faites pas, vous allez payer. Quoi. C'est, voilà. Mais les chiffres en eux-mêmes, je pense qu'ils étaient assez réalistes par rapport à la réalité observée dans les aires qui fonctionnent. Mais par rapport aux communes, nous dire, voilà, vous avez plus de 5 000, vous allez payer 300 000. Enfin, ce n'était pas 300 000 pour nous, je crois que c'était 250 et 350 pour Villard. Dit, non, c'est pas sérieux. Quoi. Mais bon.
Mais on n'est quand même pas à l'abri qu'ils nous enlèvent ça de notre dotation annuelle. Hein. Moi, les cadeaux, de Métropole, je suis toujours assez sceptique.
Oui, mais c'est pas écrit. Hein, on nous dit bien.
On a eu d'autres choses qui n'étaient pas écrites.
Non, mais on nous dit la contribution financière correspondante est à la charge de cette Métropole. C'est écrit. Et c'est sur ce sur quoi on se prononce. Non, c'est à leur charge. La compétence.
Ils vont nous l'enlever de notre dotation. Comme chaque fois qu'ils ont pris une compétence. Enfin, ils peuvent nous l'enlever de la dotation, comme chaque fois qu'il y a eu un transfert de compétences.
Le problème, c'est que pour décider de l'enlever d'un financement municipal qui vient de Métropole, il faudra qu'il y ait une décision de l'Assemblée plénière de Métropole. Et vu la réaction des maires concernés lors des dernières discussions, ça m'étonnerait pour une fois que ça passe à l'unanimité. Oui, bien sûr. Toutes les communes de plus de 5 000 habitants. Bien sûr.
Oui, je voudrais quand même. Je m'interroge sur les sommes qui ont été avancées. Je crois quand même me souvenir que c'était aussi à une période où l'objectif, c'était de construire des aires très sophistiquées, avec des abris en dur, à côté desquels pouvait arriver la caravane, etc. Donc, ça s'est fait, ça avait été fait de façon assez expérimentale là-haut, et c'est un petit peu la raison pour laquelle le coût de ces aires de voyage était très élevé.
Avec un autre paramètre, c'est qu'à proximité ou même dans la continuité de ces aires de voyage, il y a des aires de sédentarisation. C'est-à-dire qu'à la limite, on dit, bon ben, on fait 20 places et on fait 4 maisons pour sédentariser des familles. Donc ça rentre dans le pack global. Parce qu'il n'y a pas des aires de stationnement et des aires, on peut dissocier les deux, mais généralement, c'est à proximité.
Voilà, c'est l'objectif de tendre vers la sédentarisation.
Non. Les aires, c'est du passage, c'est du temporaire, par définition, avec des prestations, effectivement, des points d'eau, d'électricité, des points de ramassage des ordures. Mais l'objectif étant, effectivement, dans la politique gouvernementale, c'est de les sédentariser. Je crois bien, je ne veux pas dire de bêtises, mais rue de la Tour, il me semble qu'en bordure du Furan, il y a 3 ou 4 maisons, me semble-t-il, qui ont été destinées à des gens du voyage et qui sont là maintenant installés depuis de nombreuses années, il me semble. Hein. Mais c'était des gens des non sédentaires, non ? Moulin Picon. Ah oui, d'accord. Bon, bref. Mais c'est la même logique. Hein. Construire des logements, à minima, hein, c'est pas des villas de grand luxe, hein, il n'y a même pas de crépis bien souvent. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Bah, ils installent généralement la caravane dans la cour. Ils s'y installent.
À Saint-Étienne, il y a un village des gens du voyage qui a été construit en dur. Donc ce sont de petites villas avec une aire, des petits pavillons, oui, pavillons, avec une aire pour garer la caravane et un endroit pour stocker la ferraille. Et ça avait été un long travail puisqu'il fallait mettre les personnes d'une même famille, il fallait surtout les mettre ensemble, donc ça avait été... Ça s'était travaillé sur 2-3 ans, hein, ce projet-là.
Ce n'est pas pour rien non plus que dans le rapport, on parle à un moment, on s'étend un petit peu sur l'éducation, puisque un des objectifs, c'était de pouvoir scolariser correctement les enfants. C'est pour ça qu'il y avait cet esprit de vouloir aller vers une sédentarisation de ces gens, puisque c'est vrai que la scolarité, la scolarisation des enfants, des gens du voyage... C'est pas quelque chose de simple.
Coût global, hein, c'est l'accueil des gens du voyage de façon temporaire. Ils passent, ils repartent ou ils s'installent. C'est l'accueil au sens... je dirais générique du terme. Donc, par rapport... Oui, d'autres questions par rapport à ça ? Non ? Donc, par rapport à la... Comment ? Le schéma départemental. Donc, on va vous le soumettre pour approbation. Donc, qui est contre l'approbation de ce schéma ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, à l'unanimité, on valide ce schéma départemental qui confie à 5e métropole l'intégralité de la compétence, y compris financière. La question 9, ben c'est qui vous parlez, comme d'habitude, des pompes funèbres.
Non, heureusement que je ne parle pas que des pompes funèbres. Donc, on arrive effectivement dans la dernière partie de l'année et comme toutes les années, on va commencer à passer au niveau des conseils municipaux les décisions modificatives. Vous savez que le budget ayant été voté au mois de mars, on commence à faire un peu les ajustements. Et là, on vous propose une première décision modificative sur le service des pompes funèbres. Donc, on vous rappelle que le budget primitif a été voté le 22 mars 2021 et que c'est un document prévisionnel. Donc, il est nécessaire pour la commune d'ajuster ses prévisions en fonction des engagements juridiques. Ces corrections s'effectuent dans le cadre de décisions modificatives en respectant les principes relatifs au vote et à l'équilibre budgétaire, exactement comme on vote un budget qui doit toujours être équilibré en dépenses et en recettes. Les décisions modificatives, c'est pareil, on doit équilibrer les dépenses et les recettes. On peut en aucun cas voter une décision modificative excédentaire ou déficitaire, c'est interdit par la loi. Donc, ça concerne une somme de 1 024 €. En fait, on a racheté des caveaux pour agrandir un petit peu le cimetière. Et donc, on a des dépenses supplémentaires par rapport au budget prévisionnel de 1 024 €. Mais comme on a bien vendu des concessions, on a cet argent-là. On l'a touché ou on va le toucher, 1 024 € également. Donc, on vous demande de pouvoir augmenter les dépenses, sachant qu'on augmente les recettes dans la même proportion. Donc, une décision modificative de dépenses 2024 et de recettes 2 024 € également.
C'est vrai qu'on est actuellement dans une phase assez importante de renouvellement des concessions. J'en suis beaucoup en ce moment. Donc, ça va faire pour une année, hein, c'est pas tous les ans, puisqu'on est sur des reconductions de cycles. Ça va faire effectivement des recettes qui permettent de financer des dépenses. Des questions par rapport à ça? Est-ce qu'on peut le mettre au vote? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, on valide donc la décision modificative pour le budget des pompes funèbres. Le point suivant est fiscal. On a déjà débattu entre nous, pas forcément tous d'accord. Donc, les dispositions de l'article 1383 du Code général des impôts permettant au conseil municipal de limiter l'exonération de 2 ans des taxes foncières sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, addition de constructions, reconstruction ou conversion de bâtiments ruraux en logements en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation. Donc, il est précisé que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévu aux articles L301-1 et L301-6 du Code de la construction et de l'habitat ou des prêts conventionnés. Donc, normalement, pour les constructions qu'on vient d'évoquer, il y a une exonération de taxes foncières de 2 ans. On peut réduire, non pas la supprimer, on peut réduire une partie, enfin, réduire cette exonération, donc en rendre exigible une partie. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on décide de limiter l'exonération de 2 ans de taxes foncières sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion des bâtiments ruraux en logements à hauteur de 40% de la base imposable en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés par l'État prévus aux articles L301-1 et L306 du Code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés. Alors pourquoi moi je suis favorable à quand même faire payer au cours des 2 premières années une partie de la taxe foncière? Personnellement, j'aurais même été favorable au départ à la faire payer intégralement. Parce que ça concerne les constructions neuves. Donc quelqu'un qui achète de l'ancien, il paye tout de suite. Donc cette logique d'exonération de 2 ans, elle s'adossait à une politique d'exonération pour inciter les familles à acquérir des logements. Et donc, quand on achète, on se tourne en priorité vers le neuf, à des périodes en particulier où c'était très important de proposer un accès au logement sous forme d'accès à la propriété. Bon. Moi, je dis simplement qu'à Saint-Priest-en-Jarret, quand on voit le prix de l'immobilier, ça ne me semble pas très équitable d'exonérer donc totalement, pendant 2 ans, de taxes foncières ceux qui achètent du neuf, alors que ceux qui achètent de l'ancien la payent tout de suite. Donc voilà un petit peu mon sentiment. Et maintenant, j'aimerais bien que vous puissiez vous exprimer un petit peu sur cette question. Donc ce que je propose, c'est qu'on assujettisse donc les futurs propriétaires à une taxe foncière pour 2 ans à hauteur de 40% de ce qu'elle devrait être. Applicable, bien évidemment, il n'y a pas de rétroactivité au 1er janvier 2022. Je vous écoute.
Mon voisin, il est en logistique, il est idéal. Je ne change pas de place. Devine quand je vais parler. Oh. juste pour bien comprendre la phrase qui, parfois, sont subtiles telles qu'elles sont formulées. qui ne sont pas financés au moyen des prêts aidés de l'État. Cela veut-il dire que les personnes qui achètent des logements neufs, mais qui obtiennent l'acquisition de ces logements au moyen de prêts aidés par l'État, ont une exonération totale? C'est très important et je trouve que c'est bien de leur expliquer.
Ces logements, Mireille pourra peut-être compléter, ces logements style PLAI ou autres, financés par l'État, s'inscrivent dans un cadre bien particulier, que ce soit en taux de TVA, en conditions de bénéfice des prêts, etc., très particulières, pour permettre, je dirais, ou des primo-accédants ou des familles plutôt défavorisées d'accéder à la propriété.
Oui, ce sont des prêts qui sont soumis à ressources. Donc, effectivement, il y a des plafonds et les personnes qui bénéficient de ces prêts, ce ne sont pas des personnes qui disposent d'un capital important, voilà, ni qui ont des rémunérations importantes et donc qui peuvent bénéficier de ces prêts.
Du coup, je trouve que c'est ça qui est important dans la phrase, moi. Donc, je suis assez d'accord avec.
Et je ne veux pas dire de bêtises, Frédéric pourra peut-être me le confirmer ou vérifier. Il me semble même que pour, je pense au logement du Quartz, où une partie était donc en accession primo-accédant, donc la TVA a été réduite, elle était à 5,5. Et il me semble même que la taxe foncière, l'exonération est plus importante qu'au-delà de 2 ans. Parmi vous qui veulent absolument qu'on maintienne cette exonération de 2 ans. En fait, elle est là, la question, c'est ça. Sinon, on l'appliquera à 40%. Quoi. On ne peut pas descendre en dessous, à mon grand regret.
Il y a beaucoup de constructions en neuf sur Saint-Prié aujourd'hui.
Non, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes. Hein. Bon, il y a Edificio, il y a le Victoria. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore en cours de construction? Bon, on verra bien, il y aura peut-être les immeubles du centre-bourg, mais on n'y est pas encore. Bon, j'ai quand même été très surpris récemment sur. Il doit rester 2 appartements au Victoria, et donc qui ne sont pas encore vendus. Ils ont débuté, quand ils ont lancé les phases de commercialisation, ils étaient à 3200 ou 3300 euros du mètre carré. Là, ils sont à près de 4000. Bon, je dis quelqu'un qui va acheter à 4000 euros du mètre carré. Puis les 40% de la taxe les 2 premières années, c'est pas très très grave. On peut pas. Voilà. D'autres réactions? Jean-Pierre, vas-y.
Ouais, je suis tout à fait d'accord sur le fait d'achat neuf. C'est vrai que par rapport à un ancien, c'est tout à fait logique. Ce que je trouve intéressant dans cette loi, c'est pour dynamiser les reconstructions, donc la réhabilitation de logements qui commencent à être vétustes, par exemple, ou les extensions pour permettre plus d'aisance. Enfin, des choses comme ça qui peuvent apporter un certain dynamisme. Alors, c'est vrai qu'à Saint-Prié, c'est peut-être pas la priorité fondamentale, parce qu'on n'est pas en train de décliner en termes de qualité de logement. Donc, c'est juste le bémol. Et évidemment, pour les foyers à faible revenu, de maintenir l'exonération. Bon.
Quand on discute avec des jeunes qui ont, par exemple, dans le cas des mariages, qui ont grandi à Saint-Prié, qui sont partis et qui reviennent, la remarque qu'on nous fait systématiquement, il faudrait bien revenir à Saint-Prié, mais c'est trop cher. Très souvent, on nous dit ça. Et c'est vrai, en fait, hein, parce que, et on l'a vu dans les derniers projets, j'étais à l'inauguration d'Edificio il y a 2 ans, 1 an et demi maintenant, 1 an. Mais les gens qui revenaient, c'était des gens qui étaient en fin de carrière professionnelle ou des gens qui avaient des situations très, très confortables. Parce que c'est vrai qu'à 4000 euros, il n'y a pas que le prix d'acquisition. Il y a après, quand on achète, toutes les charges de copropriété qui vont en découler, etc. Et c'est vrai que des jeunes qui ont vécu, qui disent on voudrait bien revenir, mais non, on ne peut pas trouver, ou alors on. En location, quoi. Et on a très souvent des gens qui nous sollicitent. Est-ce qu'il y a à Saint-Prié des maisons ou des biens à acheter? Oui, mais regardez les prix. Quoi.
D'accord, c'était mon cas. Quand j'ai commencé de bosser, je pouvais pas venir m'installer à Saint-Priest et je regardais les loyers, ça me semblait.
Bien sûr. Enfin,
les achats, c'était énorme.
Ouais.
Mais non, je suis d'accord.
D'autres remarques par rapport à ça, en principe ? Donc, on va mettre aux voix. Donc, je vous demande donc de limiter l'exonération de 2 ans, en fait, à 60% d'exonération et de faire payer 40%. En gros, c'est ça, je schématise, mais c'est ça l'idée. Et donc, de notifier cette décision aux services préfectoraux et fiscaux. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, à l'unanimité, cette décision est validée. Merci. Je pensais que vous alliez me demander ce que ça allait rapporter à la commune, mais pour l'instant, je ne suis pas en capacité de le faire. Le point 11, là encore, il y a de l'argent qui rentre, et on passe la parole à Michel.
Quelle réputation. Effectivement, l'article L21-22 du Code général des collectivités territoriales et la délibération en date du 25 mai 2020 prévoit que le maire peut, par délégation du conseil municipal, décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. C'est-à-dire que ça fait partie des décisions du maire que vous avez en début de conseil. On a donné l'autorisation à monsieur le maire de vendre ou d'acheter des biens mobiliers, pas immobiliers, jusqu'à 4 600 €. Comme vous savez, on a adhéré au système de web enchères et comme on est soucieux de favoriser le réemploi du matériel et véhicules dont on n'a plus l'utilité, la commune a mis en vente par le système d'enchères, donc sur le site internet web enchères, le véhicule camion Iveco plus la saleuse Acometis. Donc cette démarche participe bien entendu au développement durable et à la bonne gestion du patrimoine et des finances communales. Le patrimoine et des finances communaux. Oui, si on veut. Le prix de cession a dépassé les 4 600 €, puisqu'on a atteint la somme de 8 105 €, et donc on est de ce fait obligé de passer par une délibération pour autoriser la vente du véhicule précité pour un montant de 8 105 € au profit de l'acheteur d'Aliandra Trans SRL d'Anamerge et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à cette vente. La recette sera bien entendu inscrite au budget. Donc plutôt une bonne nouvelle puisqu'on ne pensait pas pouvoir vendre ce véhicule et la saleuse à ce prix-là.
Des questions ? Donc ça, on rentre dans ce qu'on avait dit l'an dernier quand on est arrivé, d'optimisation de nos finances. Hein. Et donc chaque fois qu'on a maintenant des matériels ou des roulants ou du matériel technique qu'on peut mettre sur web en cher, ben, on le fait. Et puis je trouve que ça ne marche pas trop mal en fait. Hein. On avait mis la balayeuse aussi, hein, comme ça. Et là aussi, on avait dépassé le montant estimé initial.
Il reste une saleuse ? Si on se sépare d'une saleuse, il reste une saleuse ? Ou deux ? Je ne sais pas. Comment ça
Non, mais on l'avait renouvelé. Quand on achète un camion, il fait saleuse, on a une lame devant. Ben, on avait l'ancien. Quoi, donc.
Non, on
à
va
la limite, c'est presque le prix de la ferraille, je ne sais pas. Hein, mais
on va distribuer une pelle à chaque habitant pour dessaler les rues.
Et puis tu nous ramèneras d'aigues mortes quelques kilos de sel et puis voilà.
Voilà.
Bon, alors on va mettre aux voix cette décision. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc à l'unanimité, on valide la vente à 8 105 € de ce matériel. Dernier point à l'ordre du jour, puis après j'aurai un point particulier à vous soumettre. C'est une fois de plus la modification du tableau des effectifs, mais vous avez pris l'habitude puisque presque à chaque conseil, on vous le soumet. Je vous rappelle que c'est toujours le fait de s'ajuster par rapport à des mouvements de personnel ou des recrutements qu'on anticipe. Alors, à sa demande, et pour lui permettre d'occuper un poste dans une crèche privée, la directrice de Castor et Pollux, dont notre crèche, est responsable du secteur petite enfance, a été placée en disponibilité pour convenance personnelle pour une durée d'un an. Une offre d'emploi de puéricultrice. Alors, elle était auxiliaire puéricultrice. Hein. Ça. Infirmière puéricultrice. Une offre d'emploi de puéricultrice a été publiée, mais compte tenu des difficultés pour trouver des candidats, la commune doit envisager une éventuelle réorganisation de la structure en créant, donc à la place, un poste d'infirmière à temps non complet. Sur des postes comme ça qui sont publiés, qui sont des postes en CDD. Puisque l'agent est parti, pour convenance personnelle, il est en disponibilité, mais à tout moment, il peut revenir. Donc, c'est quand même des postes catégorie A, en termes d'encadrement collectivité territoriale. C'est très, très difficile de trouver quelqu'un qui soit intéressé. Donc la logique à laquelle on réfléchit, on en a parlé avec les chefs de service, c'est de revoir le mode de direction de la petite enfance. Mais pour ce faire, il y a deux contraintes. Une première, c'est celle du nombre de lits, mais ça, on sait le gérer. Et la seconde, c'est d'avoir au moins une infirmière à mi-temps qui apportera les compétences qui manqueraient sur un profil de, qui ne serait pas de celui d'infirmière puéricultrice. Donc, on crée un poste d'infirmière à mi-temps à l'état limitatif de nos effectifs. Et ce n'est pas dans le document, et je vous demande de le prendre en compte, et on le rajoutera à la verbalisation. On vous propose aussi d'y rajouter un poste d'infirmière puéricultrice à mi-temps, à temps non complet à 50%. Donc, c'est tout nouveau, puisque Frédéric a eu un contact avec une infirmière, donc pas une infirmière, hein. On crée un poste d'infirmière à mi-temps, ça c'est une première chose, mais il a eu un contact avec une infirmière puéricultrice à 50% et qui semblerait intéressée pour faire un autre 50%, même de façon précaire, à Saint-Prié. Donc là aussi, il faut qu'on le crée. Ça ne veut pas dire que c'est cette personne qu'on va recruter, mais il faut que le poste existe à l'état des effectifs. Des questions par rapport à ça ? Donc, hein, on crée des postes avant de recruter pour que, au moment du recrutement, le poste existe à l'état des effectifs. Alors, notre directrice de la petite enfance est partie pour convenance. Donc, personnelle, elle est en disponibilité. Tous les ans, elle peut dire, bah, tout compte fait, j'arrête et je reviens. Donc, ça devient forcément un emploi. Son remplacement est précaire, c'est un CDD. C'est un CDD dans le privé, on appelle ça un CDD pour salarié absent. Sauf que là, bah, tous les ans, il faut s'interroger de savoir si elle revient ou pas. Et donc, si elle ne revient pas, on renouvelle le CDD et ça peut durer très longtemps. Il se trouve que là, si on revoit notre organisation en termes de direction de la petite enfance, il nous faut quand même une compétence infirmière. On n'aurait plus puisqu'elle est partie. Donc, il nous faut à minima une infirmière à mi-temps. Donc, on crée un poste d'infirmière à 50%. Il est bien évident que si Christelle revenait, ça nous obligerait à revoir l'intégralité de notre organisation. Mais là, on a donc en plus une infirmière puéricultrice qui pourrait être intéressée. Donc, on profite de cette occasion ce soir pour actualiser notre tableau des effectifs. Voilà. L'infirmière puéricultrice, elle est infirmière et puéricultrice. C'était les compétences qu'avait Christelle. Donc, elle avait la dimension puériculture, la dimension médicale, on va dire, médicale petite enfance. Elle s'en va. Donc, on n'a plus cette dimension. On a toujours la compétence puériculture, puisqu'on a des éducatrices jeunes enfants. On en a 4 en tout. Mais on n'a plus l'infirmière. Donc, si on veut faire monter en puissance dans notre projet de réorganisation une éducatrice jeune enfant, il nous faut la compétence infirmière. Comment ? Non, on embauchera. Ah non. Les textes prévoient qu'il nous faut un 50%. Donc, soit on arrive à faire monter en puissance quelqu'un d'autre, une éducatrice, et en plus on aura un mi-temps infirmier, soit effectivement on prendra une infirmière puéricultrice, mais ça reste à voir. Hein. Parce que le problème, c'est effectivement, c'est on part pour la durée de la mise en disponibilité. L'avantage dans la solution à laquelle on réfléchissait, on allait chercher qu'un mi-temps infirmier, c'est qu'on travaillait déjà avec un encadrement existant et qui avait déjà fait ses preuves à plusieurs reprises en l'absence de Christelle. Et on se donnait, si dans le prochain Christelle revient, ça ne changera rien à notre organisation en termes d'effectifs. Voilà. Frédéric, c'est combien ? C'est 5 ans ou 6 ans ? 6 ? Alors, il y a deux possibles. Ouais, donc, la disponibilité, c'est l'agent qui prend condense personnel qui s'arrête. Alors, pour assumer un autre emploi ou pour faire autre chose, hein, pour devenir créer sa micro-entreprise, après, l'agent peut très bien, en cours de sa disponibilité, rompre son contrat et dire bah, ça marche. Ou là, par exemple, elle part comme directrice d'une crèche privée. À la limite, si ça marche, dans 6 mois ou dans 1 an, elle peut nous dire je démissionne de mes fonctions de collectivité territoriale parce que ce métier que j'aime me convient. Et que voilà. Mais il y a toujours, je dirais, cette épée de Damoclès autorisée par la loi, donc tout à fait légale, que la personne puisse revenir. Des questions par rapport à ça ? Donc, simplement une actualisation, comme on vous le soumet, à chaque conseil quand c'est nécessaire. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? qui est pour, donc à l'unanimité, on valide ce nouvel état des effectifs. J'en ai fini. Alors, dans les questions diverses, je voudrais revenir sur une sollicitation de la métropole qu'on a déjà évoquée concernant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. Comme on n'est pas en retard, je vais vous lire un petit peu la lettre de Gaël Perdriot. De Gilles Tizy, plutôt. Monsieur le maire et chers collègues, le lancement de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI, a été approuvé lors du Conseil métropolitain du 20 décembre 2018. Ce document d'urbanisme, réalisé à l'échelle des 53 communes de Saint-Étienne Métropole, a pour ambition de prévoir et d'organiser l'avenir de notre territoire en relevant les défis de demain. Le PLUI doit être co-élaboré avec les communes. La mobilisation des maires et des élus est donc une condition essentielle de sa réussite. Cela implique de mettre en place une organisation qui place les élus au cœur du dispositif, avec l'assurance de pouvoir s'exprimer et participer à toutes les étapes de la démarche, mais également de travailler dans un esprit communautaire en recherchant l'intérêt général. Ça me semble important. Un esprit communautaire en recherchant l'intérêt général. Dans cette perspective, j'ai proposé des modes de collaboration avec les élus du territoire qui pourraient revêtir différentes formes et formats adaptés aux étapes de la construction du PLUI. La première étape du travail a consisté en l'élaboration d'un diagnostic territorial pour nous permettre de dresser un état des lieux de notre métropole. C'est dans ce cadre que 6 ateliers thématiques de travail entre élus ont eu lieu au cours de l'année 2019, ainsi qu'une réunion d'échange sur les enjeux en visioconférence associant largement les élus des communes. Désormais, la phase de définition des grandes orientations du projet d'aménagement et de développement durable s'amorce, le PADD. Aussi, je vous propose pour cette nouvelle étape de nous réunir par secteur géographique en petits groupes pour une bonne appréhension de la démarche et permettre des échanges avec les élus du comité de suivi, je reviendrai après, autour d'analyses, de production collective et avancer ainsi concrètement sur les sujets à appréhender. Ces secteurs sont des secteurs de travail. Ils sont le maillon géographique intermédiaire avant le travail à l'échelle de la commune. Le secteur Saint-Étienne-Couronne, qui intègre votre commune, sera composé des 6 communes, à savoir Saint-Étienne-Ville, Saint-Jean-Bonnefonds, Sorbier, Latalot, Saint-Priant-Jarret et Villars. Alors, on a dans le comité de suivi, déjà, qui est composé de 6 élus. Il y a donc Jacques Pellegrin, qui siège depuis 2020. Malheureusement, depuis le printemps, il n'a pas pu suivre le travail du comité de suivi. Et c'était assez intense. Hein. Au début, c'était 2 demi-journées par semaine, en termes de rythme. Mais c'était passionnant. Donc là, je pense qu'il va... D'abord, il a suivi les dossiers à distance. Il va pouvoir reprendre progressivement. 5 réunions se dérouleront sur les thématiques suivantes. Donc sur la thématique paysage fin septembre, début octobre, sur la thématique trame verte et bleue courant octobre, début novembre, sur la thématique les ambitions pour l'aménagement et le développement durable du territoire en novembre, un PLUI en mode projet en décembre, une identification des zones agricoles, naturelles et forestières en janvier 2022. Ces réunions de secteur seront animés par 5 élus issus du comité de suivi, selon leur disponibilité. Donc, mesdames, Sémache, Saint-Étienne-Ville, Thivan, c'est Sorbier, messieurs Berger, Saint-Étienne-Ville, Pellegrin, Saint-Priant-Jarret, et Tizy, donc, le vice-président en charge de ce dossier. Donc, je vous précise que la réunion de secteur, on va rentrer en détail, le paysage, ça sera le 19 octobre de 9h30 à 12h à Gruner, et la trame verte et bleue le 9 novembre de 9h30 à 12h à Gruner, donc en présentiel. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, que votre commune soit représentée par 3 élus maximum qui participent, si possible, à l'ensemble du cycle de ces réunions. Donc les 3 élus que je vais vous demander de désigner tout après devront s'inscrire dans l'ensemble de ces réunions en termes de disponibilité et de participation. Dans un souci d'organisation, je vous prie de bien vouloir me répondre avant le 20 septembre. Donc simplement, le PLUI, c'est long, c'est très long, mais c'est un projet quand même qui devrait être finalisé, donc voté par l'ensemble des communes métropolitaines courant 2025 avec des perspectives en 2030 et 2035. La difficulté, c'est effectivement de se projeter sur notre territoire dans toutes ses dimensions à des horizons qui vont au-delà de 10 ans. La deuxième contrainte, c'est qu'en fait, ce pays, lui, doit s'intégrer pleinement dans le SCOT, le schéma de cohésion territoriale, qui est également une autre structure qui est supervisée après au niveau préfectoral. Donc c'est très difficile, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Si on fait des choses qui ne sont pas conformes au SCOT ou pas conformes à ce qu'on attend à la préfecture, ça sera retoqué. Et ça touche tous les domaines, je dis bien tous les domaines, alors c'est pour ça que le terme PLUI me semble un petit peu impropre, parce que ce n'est pas simplement l'urbanisme, c'est vraiment notre cadre de vie au quotidien, les mobilités, les déplacements, bien sûr l'urbanisme, la définition de zones constructibles ou de maintien d'un certain nombre de territoires ruraux. Là, on parle des zones vertes et bleues. Ben, les zones bleues, ce sont les rivières. Zones vertes, ce sont les voies vertes. Donc voilà, il y a tout un ensemble de thématiques. Et là, on rentre dans une phase de finalisation de ce PLUI et donc de présentation aux communes. Et tout à l'heure, ce qui me semblait important dans le message, quand on disait que on devait s'inscrire dans un esprit communautaire en recherchant l'intérêt général, ça veut dire que quand le PLUI va devenir devant chaque conseil, il ne va pas falloir se dire « Oui, mais moi, ma commune, je ne suis pas d'accord parce que voilà l'impact négatif que je vois. » Ça veut dire voilà, on s'inscrit dans un souci d'intérêt général, dans un cadre communautaire, et on réfléchit dans un cadre communautaire. On sort des limites de notre territoire. C'est pour ça que, en fait, la stratégie de M. Perdriau et de Gilles Tizy, c'est de dire « On va demander... » On a déjà les membres des comités de suivi, mais toutes les communes ne sont pas représentées, puisqu'il y a 6 membres. On va demander à chaque commune de désigner 3 élus qui vont devenir, en fait, les ambassadeurs du PLUI. Vous n'y allez pas pour contester telle ou telle et telle décision, pour en débattre, pour discuter, mais une fois que c'est validé, c'est vous qui allez devenir les défenseurs de ce projet dans l'impact communal que ça peut avoir. Donc, ce qu'on a dit quand on s'est réunis la semaine dernière, on vous propose donc Michel Cosset, Claude Bruno et puis Mireille en a discuté avec Gilbert, donc effectivement on proposerait Gilbert Zavrosa en troisième élu municipal pour nous représenter dans ces différents groupes de travail. Retenez aussi que le découpage qui a été proposé par la métropole ne préfigure d'aucune organisation à venir. Ils ont regroupé, bon, c'est Saint-Étienne-Ville et puis des communes limitrophes, et puis il y aura un autre groupe avec Villars, Saint-Genélaire, Roche, etc. Voilà. Donc vous avez bien compris la philosophie, donc c'est à vivre. On demande aux 3 élus qui vont nous représenter un investissement qui est quand même conséquent. Et donc je vous propose, pour nous représenter dans ces commissions, Michel Cosset, Claude Bruno et Gilbert Zavrosa. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre cette désignation? Après le mode de fonctionnement, le principe, etc., on n'a pas à en débattre. C'est une étape supplémentaire. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Donc, qui est pour cette désignation? Donc, à l'unanimité, vous êtes désormais nos représentants, ou plutôt les représentants du PLUI auprès de la commune. Plutôt dans ce sens-là. Changer de casquette. Ben, écoutez, je vous remercie. Je me tiens à votre disposition avec les adjoints pour répondre à d'autres questions. Si vous en avez, n'hésitez pas.
Salut, là, justement, on va avoir des briefings réguliers, j'imagine, au conseil municipal par nos 3 représentants sur l'avancée.
Alors, on a, en fonction de l'évolution, alors il y a eu différentes réunions qui sont faites en visio. La dernière, c'était au mois de mai, où ils avaient demandé le maximum d'élus, mais ça tombait à un moment, en visio, c'est 18h30, 19h, on avait d'autres réunions, on n'était pas très nombreux, on était 6 ou 7, je crois, mais c'est des points d'étape. Après, là, justement, ces référents communaux vont être en fait la courroie de transmission. Puisqu'on a des ateliers thématiques, ils pourront nous faire des comptes rendus de ces ateliers thématiques. Là, il y en a 5. Vous pouvez vous attendre, parce qu'en 2002, il y en a à nouveau des packs de 5. On va tout balayer. Et puis, in fine, je pense que ce sera plutôt premier semestre 2025, on aura un PLUI finalisé qu'on aura à débattre, nous, dans le cadre du conseil municipal. Mais évidemment, l'intérêt, c'est d'avoir, quand je dis ambassadeurs, c'est effectivement que vous puissiez synthétiser, finaliser ces différentes thématiques qui vont s'intégrer ensuite dans le PLUI et nous en faire le retour.
Débattre en 2025, ça veut dire quoi? Ça sera voté, ça sera juste...
Le débat aura lieu dans chaque commune, dans chaque conseil municipal, et ensuite ça remontera en conseil communautaire. comment ? Pas à chaque point d'étape, c'est le PLU dans sa globalité qui sera voté. Le problème, et on a déjà un petit peu commencé à le sentir, c'est qu'il y a des personnes qui sont élues métropolitains et qui disent d'accord, mais attention, moi en tant que maire, si j'ai une majorité qui est contre, je voterai contre. Donc c'est pour ça qu'on parle d'intérêt général et démarche métropolitaine. À un moment donné, il faut se dire, bon, même si on est en... Nous, à Saint-Prié, on est petit, on n'a pas d'enjeu, on n'a pas de territoire agricole. On ne veut pas urbaniser parce qu'on a des terres agricoles. Ce n'est pas ça l'enjeu. Mais il y a des communes, et en particulier des petites communes rurales, où il y a un véritable enjeu. Entre ceux qui disent, on veut urbaniser parce que ça nous amène de la population, ça va relancer nos commerces, nos écoles, et d'autres qui disent, surtout pas, on ne veut pas urbaniser nos territoires. Donc là, il y a déjà un enjeu qui est très important. Mais après, sur les autres thématiques, parce que... Tu suis, tu l'as vu dans les réunions mobilité et autres, quand on parle de mobilité, on pense au transport en commun, bien évidemment, mais pas seulement, parce qu'ils intègrent les mobilités qui viennent d'autres métropoles, de la Plaine, du Pilat, de Lyon, de Vienne. Il y a toutes ces interactions qui jouent et qui doivent être prises en compte. Puis derrière, il y a le SCOT et après, il y a l'État. Donc il y a des gros enjeux, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant de dire comment ça sera, comment sera notre cadre de vie, concrètement, en 2030 et en 2035. Avec donc priorité au transport en commun, au mode doux, au développement du vélo, etc. Les trams vertes, c'est ça aussi, hein, les pistes cyclables, il y a tous ces enjeux qui pèsent. Et c'est sûr que la configuration de notre territoire, nous, Saint-Prié-en-Jarret, aujourd'hui et d'ici une dizaine d'années, ça sera sans doute très différent. Je ne sais pas, je vous communiquerai notez-le, je vous donnerai les papiers, parce que là, on va les retourner, nous. À la métropole, hein, donc le premier, donc c'est le 19 octobre, 9h30, 12h, salle du rez-de-chaussée à Gruner. Gruner, c'est le bâtiment de métropole. Et la trame verte et bleue, c'est le 9 novembre également, donc de 9h30 à 12h à Gruner. Alors je pense que vous aurez une petite convocation. Est-ce qu'on met les adresses mail ? Nom, prénom, fonction ? Non, pas forcément, mais on mettra les adresses mail. Puis si on a les convocations, on vous les reroute. Et là, vous avez déjà les deux premières dates. Oui, vous l'aurez. D'autres questions, interrogations ?
Oui, moi, je voudrais revenir sur les forages. Après réflexion, je voudrais voter contre.
Contre ? D'accord. Bon, alors là, on sera hors procès verbal du Conseil. Oui, donc c'est samedi à partir de 8h, 8h10. Non, au Clos Bayard. Clos Bayard, salle du rez-de-chaussée. On aura... Comment ? Au premier étage, pardon. Premier étage, non. Non, j'ai vu ce matin avec Jacques, au salle du premier étage, oui. Pour qu'on ouvre la barrière, qu'on puisse stationner sur le parking du Clos Bayard, puisque celui du CDAT sera fermé. On aura donc à évoquer le plan pluriannuel d'investissement. Vous verrez, donc vous avez eu, s'il y en a qui ne l'ont pas eu, il faut nous le signaler, hein. Vous avez eu les documents de synthèse lors du dernier conseil, où vous avez 8 fiches d'estimation des besoins par service et une fiche de synthèse. Ce qu'on est en train de vous préparer, c'est un document complémentaire. On part de cette globalité, telle qu'elle est évaluée par les services et les adjoints en responsabilité, avec une proposition d'ajustement. Bon, concrètement, ça veut dire des diminutions, des réductions. Extraction aussi sur le document tel qu'il a été conçu d'un certain nombre de dossiers. Je pense aux finances des travaux prévus sur les écoles, sur la mairie et sur la Villa Saint-Michel. Vous voyez venir. Je les sors du plan pluriannuel d'investissement courant pour qu'on arrive à un plan annuel d'investissement que nous validerons et qui sera un plan courant, qu'on pourra retourner au service en leur disant, voilà, pour les 4 années à venir pleines, voilà ce que vous pourrez dépenser. Et puis, on va rajouter des dossiers à caractère exceptionnel, donc école, point de suspension, Villa Saint-Michel, mairie, point de suspension. Donc, c'est un coût. Qu'est-ce qu'on va y mettre ? Pourquoi faire ? On rajoutera dans les charges les provisions qu'on va mettre en place pour EPORA, donc 220 000 euros fin 2021 et 120 000 chaque année. Vous aurez aussi dans nos charges les remboursements d'annuités d'emprunt, parce que ça, ça vient s'imputer sur notre capacité d'autofinancement. Et à partir de là, on verra ce qui reste dans notre besoin de deux axes, hein, l'autofinancement et l'emprunt. Après, dans l'autofinancement, il y aura bien évidemment le produit des cessions foncières qu'on va réaliser, qu'on a commencé et qu'on va continuer à réaliser. Et donc, l'idée, c'est de se dire à un instant T, on passe ou ça bloque. Et si ça bloque, quelle carte à jouer on a encore sous le coude pour finaliser ce financement ou pas, hein, peut-être que ça se passera très bien. Le deuxième aspect, c'est de dire, eh ben, y a un projet, on l'abandonne parce que ce n'est pas réaliste et on revient sur les investissements courants. Voilà un petit peu le...